Mercredi dernier, il y a eu un attentat où on pourrait même dire, certains ont appelé ça un coup d'État à Washington, au Capitole, lorsque des manifestants ont envahi le Capitole de Washington, D.C. On dit que c'est Donald Trump avec ses tweets incendiaires qui a provoqué une telle chose, parce que ça date pas d'hier hein, qu'il y a tout ce phénomène aux États-Unis qu'on pourrait dire de populisme, mais... Pour commenter l'affaire, j'ai avec moi un vrai spécialiste, Vincent Boucher, qui est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM, qui est avec nous pour nous commenter un peu comment que lui a analysé les événements. Bonjour, Monsieur Boucher.
Bonjour.
Alors, Monsieur Boucher, vous analysez souvent les politiques étrangères des États-Unis, la politique intérieure aussi. Comment vous avez vécu ça, là, les événements de mercredi dernier?
Écoutez, les événements qu'on a pu voir le 6 janvier dernier sont vraiment sans précédent dans l'histoire politique des États-Unis. C'est la première fois depuis 1814 qu'on avait un assaut sur le Capitole des États-Unis, le siège de la législature du gouvernement fédéral américain. Mais contrairement à 1814, c'était pas une puissance étrangère, soit la puissance britannique qui s'attaquait au symbole de la démocratie américaine, mais des citoyens américains qui ne reconnaissaient pas le résultat de l'élection du 3 novembre dernier et qui voulaient littéralement venir perturber le processus de certification des votes du collège électoral qui allait avoir lieu au sein du Capitole, supervisé par le vice-président du président Trump, Mike Pence. Donc, c'est vraiment, non seulement les images étaient surréalistes, mais c'est un événement qui est sans précédent dans l'histoire politique américaine et qui est lourd aussi de conséquences, parce qu'on parle actuellement de la destitution du président Trump potentiel à Washington avec les débats qui, à l'heure où on se parle, ont présentement cours à la Chambre des représentants.
C'est ça, parce que la destitution, bon, c'est bien beau sur papier, mais dans la vraie vie, il reste pas grand temps, là, avant la fin de son mandat. Je suis pas certaine que ça va vraiment avoir lieu. Par contre, on avait déjà tenté de le destituer une fois. Est-ce que c'est le premier président des États-Unis qu'on tente de destituer comme ça?
Eh bien, dans l'histoire américaine, il y a eu maintenant cinq processus de destitution, si on compte celui qui a lieu présentement, qui visait des présidents américains. Il y en avait eu un contre Andrew Johnson en 1868, un contre Richard Nixon en 1960. 1973, et un contre Bill Clinton en 1998-1999 et deux maintenant contre le président Trump. On se rappelle que le premier qui s'était étiré de septembre 2019 jusqu'à février 2020 avait mené à l'acquittement du président Trump qui était accusé de deux chefs d'accusation par la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, dans ce processus de destitution, accuse le président des États-Unis et le Sénat, lui, agit à titre de jury et le lieu d'un procès pour tenter de déterminer si le président est coupable ou non de ses chefs d'accusation. Donc, en février 2020, on l'avait acquitté. Et là, dans le cas qui nous intéresse, c'est assez particulier parce que, comme vous l'avez bien souligné, il reste très, très peu de temps avant la fin du mandat présidentiel de Donald Trump. Et on se doute bien que même si, par exemple, la Chambre des représentants, aujourd'hui, le 13 janvier, met le président Trump en accusation d'un chef d'accusation, d'un chef d'accusation, excusez-moi la répétition, d'incitation à l'insurrection. Il n'y aura pas suffisamment de temps pour que le Sénat mène à bien un procès en destitution d'ici le 20 janvier prochain, parce que le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a dit qu'il ne rassemblerait pas le Sénat plus rapidement que prévu, c'est-à-dire le 19 janvier prochain. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on n'aura pas nécessairement le temps de tenir ce procès avant la fin du mandat présidentiel de Trump, mais le pari des démocrates est le suivant, c'est que même si le mandat est terminé, il est possible de non seulement destituer en reconnaissant que le président Trump est coupable de chef d'accusation au Sénat, mais aussi par la suite de tenir un vote qui l'empêcherait pour les années à venir d'occuper des fonctions électives au niveau fédéral, ce qui l'empêcherait effectivement de se représenter et potentiellement d'être réélu président des États-Unis en 2024, par exemple. C'est donc ça le pari des démocrates. On veut non seulement s'assurer que le président Trump soit tenu responsable pour les événements du 6 janvier de par ses discours, mais aussi qu'il ne soit plus possible pour lui de briguer la présidence des États-Unis.
Est-ce que les Américains, par leur structure politique, protègent un peu trop leur président en général? Parce que Donald Trump, là, dès le début de son mandat, là, bon, il était très controversé, puis ça, c'est correct. Bon, des gens qui sont controversés, il va toujours en avoir. Mais Donald Trump avait été accusé d'agression sexuelle, de fraude. Je veux dire, est-ce que le fait qu'il était protégé en tant que président des États-Unis, c'est pas retourné contre les États-Unis?
C'est une excellente question. Je pense qu'effectivement, on a pu voir jusqu'à quel point le président, lorsqu'il est en exercice de fonction, peut se servir des décisions passées du département de la justice, des avis juridiques qui avaient été émis par le département de la justice pour se protéger contre les poursuites. Et c'est ce qu'on a vu dans le cas de M. Trump. Vous vous rappelez peut-être dans le rapport du procureur spécial Robert Mueller qui avait été produit à la fin de son enquête sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016, il avait dit: Je ne peux pas porter des chefs d'accusation contre le président Trump parce que, il existe une directive du département de la justice qui date de la présidence Clinton qui statue qu'un président en exercice ne peut pas être mis en accusation devant les cours de justice du pays. Donc là, on a un cas partant de ce que vous évoquez, c'est-à-dire un président qui, tout au long de son mandat, est protégé à une certaine immunité de facto de poursuite sous le couvert d'une justification qui vise à protéger justement la stabilité politique du pays. Cela étant dit, on voit que le président peut être la cible de d'autres tentatives de le tenir responsable de ses actions, notamment le processus de destitution qui est essentiellement un processus politique, il faut le rappeler, parce que oui, ça peut forcer un président à quitter ses fonctions si jamais il est reconnu coupable dans le cadre d'un procès au Sénat. Cela étant dit, ça n'a pas de valeur judiciaire au sens propre. Si, par exemple, le président est destitué pour quelque chose qui relève d'un crime au sens du code criminel américain, eh bien, il sera, par exemple, mis en accusation et est reconnu coupable par un procès au Sénat, mais si, par exemple, on veut déterminer s'il doit servir du temps en prison ou pas, eh bien, faut qu'il y ait un procès par la suite devant une cour de justice aussi. Donc, le processus de destitution est, lui, avant tout politique, encore une fois, il faut le rappeler.
On n'en a pas fini.
Effectivement.
Donc, ça va être à suivre. Vincent Boucher, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci à vous.